Bonsoir. Deux journalistes ont été tués en l'espace de quelques semaines à Ituri et au Nord Kivu, dans la nuit de vendredi à samedi par exemple. C'est le journaliste Joël Mumbere et son épouse qui ont été tués à Biakatu dans la province de l'Ituri après avoir reçu des menaces des miliciens, d'après des sources concordantes. Et selon les mêmes sources, Joël Mumbere, directeur de la radio-télé Baroni de Biakatu, a été poignardé aux côtes et au cou. Le secrétaire de la section Ituri de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, rappelle que Joël Mumbere est le deuxième journaliste tué dans la région après Papi Mahamba en novembre 2019, assassiné dans les mêmes circonstances. Au Nord Kivu, c'est plutôt Héritier Magayane, un jeune journaliste de la sous-station de la radio-télévision nationale RTNC en sigle, qui a été tué dimanche 8 août dernier vers 19h30 local à Bunyangula, près de Rutshuru Centre. Les assaillants inconnus ont utilisé une arme blanche pour ôter la vie de la victime selon la version répandue. Quelle analyse faire de l'assassinat de ces journalistes? Que faire pour renforcer la sécurité des journalistes mais aussi de toutes les populations vivant sur les territoires concernés par ces crimes? C'est le sujet de ce soir et pour en parler, nous serons avec Tony Ntambu, avocat et directeur de cabinet du ministre des Droits Humains du gouvernement central. Tony Ntambu, bonsoir.
Bonsoir.
Mais aussi Gabi Kouba, bonsoir.
Ah, bonsoir.
Vous êtes le président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle. Et enfin, Dieudonné Boutembezi, avocat et chef d'antenne à Mambasa de l'ONG de défense de droits de l'homme, Convention pour le respect des droits humains, CRDH en sigle. Dieudonné Boutembezi qui doit nous rejoindre dans ce débat. À tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Deux journalistes ont été tués en l'espace de quelques semaines à Ituri et au Nord Kivu, dans cette dernière province citée. Héritier Magayane est un jeune journaliste de la sous-station de la RTNC, a été tué dimanche 8 août dernier vers 19h30 local à Bunyangula, près de Rutshuru Centre. Les assaillants inconnus ont utilisé une arme blanche pour ôter la vie de la victime selon la version répandue. Jules Ngala, dans la voix de Richard Junior Kamunga.
Héritier Makayana a trouvé la mort en Bunyakula, petit village qui sépare Rutshuru centre de la cité commerçante de Kiwanja voisine. C'est à environ 70 km au nord de Goma, dans le territoire de Rutshuru. Selon la nouvelle société civile de Rutshuru, qui confirme l'information, la victime rentrait à la maison vers 19h30 locale. Après avoir fait une chose et l'autre, lorsque ses assaillants l'ont attaqué à Bunyakula avant de procéder à son assassinat. Et d'ajouter que les bourreaux ont eu tellement de temps qu'ils ont même procédé sans être inquiétés à l'extraction du nez corrigien de la victime qu'ils ont emporté. Les mobiles du drame n'ont pas été élucidés selon la même source. Celle-ci révèle que tout de même que le père du défunt a été tué il y a une année dans les circonstances presque similaires. La nouvelle société civile de Rutshuru demande aux autorités militaires et de la police de mener vite l'enquête pour élucider cette nouvelle assassinat et de renforcer la sécurité en territoire de Rutshuru.
Tony Ntambu, avocat et directeur de cabinet du ministre des Droits Humains du gouvernement central. Maître, quelle est la première réaction que vous avez de cette série d'assassinats à répétition des journalistes dans la partie est de la RDC?
Encore une fois, merci pour l'invitation et je salue tous nos auditeurs. Premièrement, je tiens de prime abord à présenter mes sincères condoléances à la famille des journalistes qui sont malheureusement tombés consécutivement à justement ces crimes, ces assassinats qui, hélas, touchent pas seulement leur catégorie professionnelle, mais malheureusement une grande frange de la population dans la partie est, mais également ailleurs dans le pays. Et c'est à notre niveau, un regret et également une désolation de voir que ce genre d'actes continue à se perpétrer. Mais c'est également pour nous qui sommes, et là je parle en tant que membre du cabinet du ministre des Droits Humains, cela nous pousse à continuer des efforts que nous sommes en train de mener justement, des efforts qui doivent être menés de manière collégiale avec les ministères et les différents services qui sont impliqués dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens. Toute vie humaine a son importance. Nous mettons l'accent effectivement également sur le caractère inaliénable de la vie humaine. Et c'est toujours désolant pour nous d'entendre que de tels actes sont perpétrés. Et il faut que l'État régalien puisse réellement protéger sa population. Et protéger sa population, c'est en amont et en aval. Je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure au cours du débat.
Maître Tony Ntambou, mais est-ce qu'à ce stade, a-t-on une idée de ce que ces crimes représentent réellement? Sont-ce des assassinats ciblés, dirigés exclusivement contre les journalistes, ou encore des simples crimes crapuleux, ou encore cela entre dans le cadre général de l'insécurité qui règne dans les deux provinces citées, où d'ailleurs est en cours l'état d'urgence en RDC.
Voilà. À ce stade ici, il me serait difficile de pouvoir affirmer qu'il s'agit de crimes qui ciblent particulièrement des journalistes. Vous avez effectivement évoqué le cas de deux journalistes qui venaient d'être assassinés de manière crapuleuse et criminelle, mais nous pensons qu'au-delà de la catégorisation ou au-delà de cela, la sécurité est l'apanage de toute la population. La population dans son ensemble, qu'il s'agisse de journalistes, qu'il s'agisse de défenseurs des droits de l'homme, mais qu'il s'agisse de toute personne, femme ou enfant, congolaise ou étrangère qui est sur le sol de la RDC, a droit à la sécurité. Et il nous faut continuer à mettre en œuvre des mécanismes qui puissent accroître la sécurité de nos populations. Il est vrai que les parties ou la partie du territoire où justement ces assassinats ont eu lieu, cette partie du territoire est caractérisée justement par une forte recrudescence d'insécurité, et que cette insécurité qui est tributaire aux actes par moments isolés ou à des actes de criminalité, on va dire de criminalité portant atteinte aux personnes. Mais s'il y a des éléments qui, au cours des enquêtes qui doivent être mises sur pied, qui démontrent que ces assassinats touchent particulièrement les journalistes du fait de propos ou du fait de l'exercice de leur fonction, il va de soi que c'est encore plus condamnable. Et je sais qu'il y a un plan d'action dans le cadre des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité qui devait être mise en œuvre à travers notamment la mise sur pied d'un observatoire national pour la sécurité des journalistes. Je pense que l'occasion est bonne pour pouvoir remettre cette mesure-là sur les rails, afin que non seulement cette catégorie professionnelle, mais également la population dans son ensemble puisse réellement bénéficier de la protection de la police ou de l'armée, qu'il s'agisse des cas qui touchent la population locale.
Directeur du cabinet du ministre des Droits humains du gouvernement de la République démocratique du Congo, Tony Ntambou, Joël Mumbere et son épouse, le cas cité à Ituri, ont, selon les témoignages concordants, été avertis, menacés en avance avant leur assassinat par des miliciens. Les services de l'État étaient-ils au courant de ces menaces, et si oui, avait-on pris les dispositions pour éviter le drame?
Oui, j'aimerais rappeler que je parle en tant que membre du cabinet du ministère des Droits humains. Nous n'avons pas à notre niveau, en tout cas pas à ma connaissance, eu écho de menaces qui touchaient particulièrement ce journaliste et son épouse qui ont été victimes, hélas. Mais il est vrai que dans le cadre de la protection et de la sécurité, les ministères de l'Intérieur, les ministères de l'Intérieur et de la Défense, à travers les différents services spécialisés, ont certainement eu écho de ces menaces. et j'ose espérer que des mesures auraient dû ou auraient pu être prises. Mais à notre niveau, nous nous tenons à mettre l'accent sur, et c'est ce qui relève effectivement de notre ministère des droits humains, parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas nous limiter à déplorer des actes ou des faits chaque fois qu'ils se posent, mais c'est de nous poser la question comment nous pouvons éviter certaines choses en amont, et c'est là où le ministère des droits humains intervient à travers la formation, à travers la sensibilisation. Mais quand il s'agit par rapport à l'aspect purement de la défense ou de la protection, il y a des services habilités pour ça, mais en tant que ministère des droits humains, qui est un ministère transversal, nous devons collaborer avec justement toutes ces structures et tous ces services pour que la population puisse être réellement protégée. Et quand il y a des menaces avérées qui sont formulées à l'endroit non seulement de journalistes ou de leurs proches, mais de personnes, peu importe l'activité, il importe que ces personnes-là puissent être protégées, que l'on puisse assurer leur protection. Et il faut également que des poursuites mises sur pied, des poursuites. Quand je dis poursuites, je veux faire allusion à des enquêtes et que les auteurs de ces actes puissent être sanctionnés.
Merci Tony Tambou. Gabi Kouba, président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle. Que savons-nous à ce stade au niveau de l'UNPC, hein, de ces deux assassinats évoqués dans l'émission d'aujourd'hui, mais aussi de celui du journaliste tué en novembre 2019, comme cela est signalé dans notre introduction?
Ça va. Merci beaucoup, Donald. Je tiens à signaler que l'Est du pays est secoué par l'insécurité depuis plusieurs années et les journalistes ne sont pas épargnés. Ces trois derniers mois, nous avons enregistré quatre assassinats des journalistes, notamment Joël Moussavouli, qui a été tué le samedi passé, et puis héritier Mouyagane à Rutshuru, au nord Kivu, Tchonga Kibwana le 15 juillet et Tchangamuka le 10 mai à Tchitchanga. Donc au total, ça fait 4 journalistes. Mais on sait pour le dernier cas de Joël Moussavouli qu'elle aurait été l'objet de menaces pendant plusieurs jours par des personnes inconnues. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de l'équipe qui avait travaillé pour la sensibilisation contre Ebola. Et elle était aussi parmi les gens, parmi les journalistes qui avaient couvert ou qui couvrent encore les activités de lutte contre le Covid-19. Alors, certaines personnes sont réfractaires et ne croient pas à l'existence de ces maladies. Et on estimait, on distillait des fausses informations selon lesquelles si jamais on était vacciné, on serait stérile et qu'on sort. Alors, quand les journalistes tentaient de donner l'information officielle ou l'information du comité scientifique, il était considéré comme celui qui induisait les gens en erreur. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas confirmer aujourd'hui que nos confrères sont assassinés parce qu'ils ont fait ce travail. Néanmoins, nous constatons que les journalistes font l'objet des attaques depuis quelques temps. Et ça s'est beaucoup intensifié.
Gabi Kouba, vous nous avez dit quelques informations concernant le décès de Joël Moumbéré, mais le cas de héritier Magayane reste apparemment assez peu documenté. Avez-vous quelques informations qui pourraient nous expliquer ou expliquer à l'opinion dans quelles circonstances lui a trouvé la mort? Serait-il aussi victime de quelques menaces des groupes armés à gauche ou à droite ou de quelques services de l'État ou de ses propres activités extra-journalistiques?
Non, d'ailleurs, ce sont des informations éparses que nous avons collectées de la part de nos points focaux qui sont basés dans les provinces, mais personne ne peut dire aujourd'hui avec exactitude que Joël Moussavouli, qui a été tué à Mambasa, personne ne peut nous donner aujourd'hui des raisons. Tout comme héritier aujourd'hui, personne ne peut nous dire exactement. Seules des enquêtes approfondies peuvent déterminer les circonstances des assassinats de nos confrères.
Et mais est-ce qu'à ce stade, est-ce à ce stade, président national de l'UNPC, est-ce qu'à ce stade, Gaby Kouba, vous avez l'impression à l'UNPC qu'il y a un climat généralisé en RDC qui serait anti-journaliste?
Non, ce n'est pas un climat, ce n'est pas l'impression, c'est une réalité. Lorsque nous perdons 4 journalistes en l'espace de 3 mois, cela devient une préoccupation majeure pour la corporation. Aujourd'hui, que ce soit les journalistes qui sont basés sur place dans des régions où l'état de siège a été décrété par le président de la République, que ce soit ceux qui peuvent venir d'ailleurs pour aller couvrir les activités de l'autre côté, la crainte est réelle parce que ça donne l'impression que les journalistes sont ciblés par rapport à la situation actuelle. Et cette situation ne peut pas perdurer. C'est vrai que le gouvernement déploie beaucoup d'efforts pour sécuriser la partie est du pays en restaurant la paix, mais quand 4 journalistes meurent, parce que le président de la République, lorsqu'il avait décrété l'état d'urgence, avait également demandé l'accompagnement des médias. Comment les médias peuvent-ils accompagner l'état de siège dans les 2 provinces lorsque eux-mêmes ne sont pas en sécurité? C'est un sujet d'inquiétude permanent pour Merci. L'Union nationale de la paix du Congo.
Merci.
Et nous demandons à l'État de trouver une solution immédiate pour que cela cesse.
Merci Gaby Kouba, nous vous gardons dans ce débat. Dieudonné Mutembezi, avocat et chef d'antenne à Mambasa de l'ONG de défense des droits de l'homme, Convention pour le respect des droits humains. Tout à l'heure, nous ne vous avons pas eu directement en ligne. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Alors, on entend bien le gouvernement qui ne peut peut-être pas par pudeur, hein, tout de suite reconnaître si ses services sont impliqués dans cette situation, et l'Union de la presse qui reste prudent, hein, dans son propos. Mais vous, qui êtes des ONG, quand vous faites l'analyse froide des assassinats des journalistes de ces derniers mois, surtout ceux évoqués dans cette émission, pouvez-vous nous dire avec certitude ou pas si Joël Mumbere a été bien assassiné, est-ce par les miliciens, est-ce par les services étatiques ou ses propres activités extra-journalistiques, et si c'est la même situation pour héritier Magayane qui est aussi concerné par cette situation?
Merci, monsieur le journaliste, pour la question. J'ai bien suivi avec intérêt le président de l'UNPC. Ce que je peux répondre d'une manière brève à votre question, c'est confirmer que M. Joël Moussavouli a été tué donc par les travaux, donc du fait de ses fonctions de journaliste. Alors, je ne peux pas aussi, comme le président de l'UNPC, confirmer avec exactitude qui a tué M. Joël Moussavouli. Mais, monsieur le journaliste, nous pouvons peut-être relever un certain nombre d'éléments qui sont documentés par notre bureau de Mambasa. Je vous précise, monsieur le journaliste, en mai dernier, l'ONG CRDH avait dénoncé la présence d'un cachot souterrain à Biakato, organisé et administré par les forces armées de la République démocratique du Congo, du bataillon 21-022, basé à Biakato. Lorsque les journalistes de Biakato ont diffusé cette information, ils ont été invités au camp de militaires où ils ont reçu des instructions de l'officier militaire qui commande cette unité-là de ne plus diffuser les informations qui concernent l'armée sans une censure préalable par cette autorité. Ça, c'est un élément, monsieur le journaliste. Un autre élément, à la radio télévision communautaire Babombi, que dirigeait notre frère qui venait de nous quitter, Joël Moussavouli, il y a une émission intitulée Raia Fungua Macho, qui veut dire en swahili que population ouvre les yeux. Cette émission n'est pas aimée par la plupart d'agents de l'État, et dernièrement, Joël a été invité avec son invité dans les 4 jours militaires, recevant des informations, donc des instructions des autorités, des officiers militaires qui puissent cesser la présentation de cette émission. Mais Joël et son invité ont estimé que non, elle allait dans le sens d'enfreindre la liberté de la presse. À part ça, monsieur le journaliste, un autre élément, en date du 9, donc la nuit du 9 au 8 du mois en cours, Joël a été visité la nuit à minuit par les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été ligoté avec d'autres voisins au motif que les militaires venaient faire les coups, donc ce qu'ils appellent perquisition. Alors on ne sait pas la suite de cette perquisition. Toutes les victimes, donc les maisons visitées, les gens ont été victimes. Les militaires ont emporté des chèvres, des poules et d'autres biens. Et ils ont amené ça dans leur véhicule.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Joël, apparemment, par ses émissions, il réveillait une certaine conscience. Mais c'était au sujet de quoi? Quels sont les éléments qui pouvaient gêner les services de l'État qui, selon vous, l'avaient menacé ou n'étaient pas très emballés par les commentaires du journaliste Joël Mumbere?
Monsieur le journaliste parle, il est même de l'émission quand on parle de Fungu à Macho. Ça veut dire qu'on informe à la population comment les lois de la République sont en train de doivent être appliqués.
Donc on comprend bien. On comprend
la confrontation
oui,
de la réalité vécue dans les milieux.
On comprend bien, mais en quoi est-ce que expliquer les lois du pays pouvait déranger les services de l'État?
Je vous informe par exemple, lorsque Joël et son invité passent à la radio et expriment qu'un OPJ militaire n'a pas le droit de percevoir les amendes. Dans un camp militaire, on ne peut pas trouver un tribunal. C'est en violation de loi de la République. Je pense que ça peut gêner d'aucuns. C'est pourquoi nous disons que ce qui est arrivé, et peut-être vous m'avez coupé, je n'avais pas encore terminé à vous expliquer la chaîne, des événements qui nous poussent à avoir des donc à croire aux présomptions que l'assassinat de ces journalistes n'est pas loin des services de sécurité de l'État. Nous le confirmons dans notre organisation. Parce que nous avons un certain nombre d'éléments. Si vous me permettez, je vais vous les présenter.
Mais il nous a aussi rapporté, permettez-moi, Dieudonné, Mutembezi, il nous a aussi été rapporté que Joël Mumbere et Moussavouli avaient préalablement aussi reçu des menaces des miliciens. Vous confirmez cela? Et si c'est le cas, pour quelles raisons pensez-vous que les miliciens l'auraient menacé ou le menaceraient?
Monsieur le journaliste, sans contredire le président de l'INPC, il a invoqué des éléments, donc la gestion d'Ebola ou la participation dans la gestion d'Ebola et Corona. Je ne suis pas en train de les contredire, mais ça fait longtemps que tout le monde qui recevait les menaces d'Ebola ne reçoit plus. Alors pour Corona, je n'ai pas les informations sur que Joël était un acteur dans les comités de riposte. Parce que pour votre information, d'abord, au niveau local ici, il n'y a pas vraiment une sensibilité ou des mesures particulières sur la lutte contre le corona, à part seulement la fameuse obligation de cache-nez, de port du cache-nez, mais il n'y a pas d'autres vraiment mesures par rapport à cela, monsieur.
Alors, Dieudonné Mutembezi, vous semblez dire que Joël Mumbere aurait été la victime des intérêts, hein, que ses commentaires dérangeaient et que c'est en sa qualité de journaliste qu'il aurait été visé. Mais son épouse a été assassinée comme lui. Ça aurait suffi qu'on l'élimine lui tout seul, non? Pourquoi on s'en est pris, selon vous, à son épouse aussi?
Monsieur le journaliste, je confirme d'abord à votre radio que son épouse est encore en vie, mais entre la vie et la mort. Mais je vous présente les éléments aussi concernant son épouse. Son épouse devrait être toujours aussi assassinée pour d'avoir un témoin gênant. Alors, comme un autre, monsieur le président, la nuit du 14, lorsque son épouse était à l'hôpital de Biakato, pendant la nuit vers 23 heures, les hommes en armes qui parlaient les Lingala, selon les infirmiers de là, de l'hôpital, les responsables de l'hôpital, ces gens-là sont venus, ils voulaient entrer dans la maison où se trouvait la femme de Joël. On ne sait pas pour quel motif. Un autre élément, monsieur le journaliste, lorsque le médecin de l'hôpital de Diakato a transféré l'épouse de monsieur Joël dans un hôpital privé de Beni, il a été acheminé par les militaires de FARDC, ce qui est bien parce que ça valait pour sa sécurité. Mais chose étonnante, arrivé à Beni, Les médecins ont transféré dans un hôpital privé parce que les hôpitaux publics, il y a des grèves et il y a beaucoup d'autres difficultés que vous connaissez. Mais l'armée s'impose jusqu'à ce qu'il y ait des ping-pong. On a ramené la femme à l'hôpital privé, on l'a encore amené à l'hôpital public, va et vient jusqu'à ce que la famille s'est imposée dans les après-midi maintenant qu'on a réussi à l'installer dans un hôpital privé. Nous nous posons la question, monsieur le journaliste, depuis quand l'armée a réussi la mission de choisir les hôpitaux ou les structures dans lesquelles les citoyens doivent se faire soigner?
Merci.
Ça pose toujours des interrogatoires, monsieur le président, par rapport à cet assassinat que nous déplorons tous.
Merci Dieudonné Mutembezi. Nous revenons aussi à vous dans cette émission. Merci déjà à vous de préciser à l'opinion que Madame Joëlle Mumbere, bien que certes touchée, reste encore en vie. Souhaitons qu'elle reprenne la santé le plus rapidement possible. Tony Ntambu, avocat et directeur de cabinet du ministre des Droits Humains du gouvernement central. Pour vous, cette réflexion de Jean-Pierre.
Jean-Pierre Passamouta nous dit, à partir de Nikalaï, au Kassai central, à mon humble avis, l'assassinat perpétré des hommes des médias à l'est du pays où règne l'insécurité, fait suite à certaines émissions à caractère politique dans le but de dénoncer le mal de certaines autorités politico-militaires. D'autre part, à la dénonciation des tueries, vols, viols commis sur terrain par nos ennemis. Cette atteinte à la liberté et à la protection de la presse interpelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour saisir le gouvernement en vue de trouver des voies et moyens pour garantir la sécurité des journalistes, surtout en milieu où règne l'insécurité.
Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Droits Humains, votre réaction à ce commentaire de Jean-Pierre, mais aussi aux informations données ici par Dieudonné Mutembezi.
Voilà, je tiens d'abord à insister sur un fait, c'est que la liberté d'expression et son corollaire qui est la liberté de la presse constitue un élément probant de l'état de droit. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne peut pas déroger. Et donc, puisque j'ai entendu tout à l'heure, il y avait, par rapport à l'assassinat de M. Joël, notre regretté compatriote, des questionnements en rapport avec le fait si son assassinat était consécutif à l'action des miliciens ou de services de sécurité, mais dans tous les cas, on évoque le fait de sa profession de journaliste. Nous, en tant que ministère des Droits Humains, nous considérons que peu importe, et ça c'est quelque chose qui est très important et qui doit être bien compris par tous. Et le ministre des Droits Humains, qui venait d'ailleurs il y a quelques jours ou pratiquement une semaine d'une mission de deux semaines à l'est du pays, il a été également dans l'Ituri, où il était question de renforcer les capacités des éléments des forces de l'armée, de la police, des éléments de sécurité, sur l'importance qu'il y avait en dépit du fait que on se situe dans une partie du pays qui se trouve sous état de siège, mais qu'il était important et qu'on devait veiller absolument sur la protection des droits de l'homme. Et donc, par rapport aux assassinats auxquels nous faisons allusion aujourd'hui, il va de soi que, qu'il s'agisse de journalistes ou qu'il s'agisse de populations, peu importe leur activité, nous ne pouvons accepter que des personnes, par le fait de leur pensée ou par le fait de déclarations qu'ils peuvent faire, ou qu'un journaliste, par rapport à des émissions qu'il produit ou des sensibilisations qu'il peut faire pour la population, que cette catégorie professionnelle ou que la population dans son ensemble puisse être menacée ou, dans le cas qui nous concerne, tuée à cause de propos, à cause de nous ne pouvons pas permettre que la liberté d'expression soit remise en cause.
Tenez, Toumba, on a bien entendu votre dénonciation à ces situations qui provoquent la mort, mais avez-vous une idée, vous n'êtes pas le ministre lui-même qui participe peut-être à toutes les assises du gouvernement, mais quelle pourrait être la solution si votre ministère y a déjà réfléchi, quelle pourrait être la solution pour justement arrêter ces mises à mort, que ce soit pour les journalistes ou les populations paisibles?
Voilà, moi je crois qu'il y a deux choses, parce que là on se situe dans des zones, on parle de l'Ituri, on parle de l'Est notamment, qui sont déjà dans une situation de forte insécurité. Donc il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes dans des parties du pays où l'insécurité est grande, il y a les miliciens, il y a les forces négatives, etc. Et nous sommes également dans cette partie du pays sous état de siège. Et cela rend effectivement la situation, normalement, l'état de siège qui a justement été décrété pour pouvoir renforcer la sécurité sans nécessairement réduire les libertés et les droits des personnes, mais nous savons que l'état de siège, de par essence, restreint certaines libertés pour l'intérêt effectivement de la population. Mais nous disons que dans une réflexion plus générale, nous devons, l'État régalien a le devoir de protéger sa population. Et donc, il faut nécessairement que lorsqu'il y a des actes qui sont commis de la sorte, comme mon co-débatteur de tout à l'heure faisait allusion, on ne peut pas comprendre qu'il y ait des enquêtes qui soient ordonnancées, mais qui n'arrivent pas
à fournir suffisamment d'éléments, oui, pour pouvoir intervenir.
Voilà, qui ne donnent pas de conclusion en termes de commanditaires ou en termes de personnes qui ont commis ces crimes, qui doivent être jugés, déférés devant les cours des tribunaux et puis être
sanctionnés.
Voilà. Parce que nous ne devons pas oublier. Là, et c'est là où je veux encore marteler, lorsqu'il y a des faits qui sont commis par des bourreaux, mais qu'on ne sait pas identifier, ou qui peut-être ne sont plus sur le territoire congolais, mais les victimes sont là, elles demeurent. Qu'est-ce que nous devons faire? Et la réflexion dont vous faites allusion, c'est celle-là, c'est que nous devons instaurer une véritable justice transitionnelle, car la justice transitionnelle, justement, permet que les victimes de ces crimes atroces puissent recevoir réparation, en dépit du fait que nous ne pouvons pas identifier les bourreaux de manière formelle, mais nous devons permettre aux victimes
d'avoir
un semblant de réparation, un semblant de rédemption à travers justement la justice transitionnelle. Donc c'est ce que nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre avec le
ministère des droits humains,
l'ensemble du gouvernement sous la houlette du chef de l'État.
Merci Tony Ntambu. Gabi Kouba, président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, pour vous ce commentaire de Kolwezi.
Ok, d'accord. Moi c'est monsieur Adonis Oswald Kamingwa, je vous appelle à partir de Kolwezi, province du Lualaba. Ces cas répétitifs de meurtres sont un moyen de terreur que la CIA exécute dans le but soit d'effrayer la population pour produire une psychose généralisée, soit pour étouffer et barrer une source qui dénonce certaines informations contre leurs opérations malveillantes. Le journalisme est un métier noble qui mérite honneur et protection au même titre que l'exercice d'un député ou d'un sénateur. Pour garantir une sécurité efficace du journaliste, l'Assemblée nationale et le Sénat devraient voter une loi qui autorise aux experts du micro d'avoir des gardes du corps sous la charge de l'État.
Gabi Kouba, votre réaction?
Merci beaucoup pour cet auditeur qui s'intéresse à notre débat ce soir. À partir de Kolwezi, je voudrais tout simplement commencer par la dernière partie de sa question. Il est extrêmement impossible que le gouvernement puisse donner à chaque journaliste un garde du corps dans l'exercice de son métier. Nous sommes presque à 10 000 personnes, 10 000 journalistes sur l'ensemble du territoire national. Si vous calculez le nombre de policiers et de militaires sur l'ensemble du pays qui doivent faire le travail de sécuriser l'ensemble de la population, et prendre aussi un garde du corps pour chaque journaliste, c'est extrêmement difficile et c'est pratiquement impossible. Donc cela ne peut pas se faire. Mais là où je suis parfaitement d'accord avec aucun pays au monde ne peut réussir ses paris. Et là où je suis parfaitement d'accord avec cet auditeur, est-ce que ces meurtres, c'est dans le but de faire taire les journalistes? Je suis d'avis que c'est un peu cela. Pourquoi? Parce que nous sommes des témoins gênants. Et vous voyez, dans une zone de conflit, où la mafia a élu domicile, comme le président de la République, Tshisekedi lui-même l'a décrié depuis des années, et lorsque les journalistes qui sont des témoins, qui sont l'œil et l'oreille du public, et qui doivent faire le travail des recherches et des informations, ils ne sont pas toujours les bienvenus. Pourquoi? Parce que les acteurs aujourd'hui de la guerre sont les principaux bénéficiaires. Et un journaliste qui va enquêter, par exemple, sur l'origine des munitions, sur les activités des miliciens, et ne l'oublions pas non plus, que l'Est du pays est immensément riche en ressources naturelles. Et la plupart des miliciens, ou la plupart des mouvements armés, font le business du sang. Alors, quand les journalistes vont vers ces sources d'informations pour avoir des éléments probants, ils sont considérés comme des ennemis à abattre.
Alors, Rabbi Kouba, qu'est-ce que, selon vous, on peut faire, justement, vu qu'il y a toutes ces réalités de forte insécurité et que le journaliste doit continuer quand même à faire son travail malgré tout? Quelle solution, selon vous, peut-on mettre en place pour... Et dans le contexte de la RDC, pour à la fois pérenniser le travail de journaliste dans un contexte de sécurité ou de moins d'insécurité, mais aussi toute la population?
La solution passe par la restauration de l'autorité de l'État et le rétablissement de la paix et l'anéantissement ou l'endiguement de tous les mouvements armés dans l'est du pays. À ce moment-là, lorsque l'ensemble des citoyens connaîtra l'insécurité, la sécurité, les journalistes également seront sécurisés.
C'est ce qui est déjà en cours, Gabi Kouba, mais puisque le processus est déjà en cours, y a-t-il selon vous autre chose qu'on peut faire en plus pour booster justement l'objectif que vous avez indiqué?
L'objectif est seul, l'État a la possibilité d'évaluer les actions qu'il a menées jusqu'ici pour constater s'il y a eu des avancées, s'il y a eu des avancées, et s'il y a des faiblesses, ce sont ces faiblesses qu'il faudra absolument corriger pour que la paix soit rétablie. Donc la responsabilité de sécuriser l'ensemble des citoyens, de sécuriser les professionnels des médias, revient au pouvoir public. Et c'est ce que le pouvoir public fait, mais la situation est tellement complexe, parce que le problème n'est pas seulement qu'interne, il faut voir également des puissances extérieures qui se sont installées dans notre pays depuis des années, où on voit également des mains noires qui sont tirées à partir des, qui opèrent à partir de l'étranger via la sous-traitance des miliciens ou encore des acteurs, parfois parce que même le président Tshisekedi lui-même l'a décrié, il y a une mafia dans les institutions de l'État. Merci. Les vers se trouvent aussi dans les fruits. Alors, ce qui complique la situation des journalistes, on est pris entre les marteaux et l'enclume. Comment dénoncer, dénicher et publier des informations pour ceux qui font partie des services de l'État et qui sont censés nous sécuriser et qui sont parfois en connivence avec ceux qui sont venus d'ailleurs.
Merci, David Kouba.
Ou encore les activistes qu'on utilise comme des miliciens.
Merci.
Donc c'est tous ces problèmes qu'il faudra absolument traiter, et l'État a la possibilité, le pouvoir public a la possibilité de faire une évaluation, une autopsie sans complaisance pour une solution durable.
Merci.
Mais je reviens à ce qui a été dit précédemment à l'ensemble de cette émission. Contrairement à ce que vous aviez annoncé, l'épouse de notre confrère Joël Moussavili n'est pas décédée. Certes, elle a été gravement touchée lors de l'attaque de son mari, mais jusque-là, elle n'a pas rendu l'âme. C'est son mari qui a rendu l'âme. Elle a été inhumée depuis le dimanche passé.
Merci.
Donc, l'épouse de notre confrère est encore en vie, quoique gravement blessé.
Merci à vous de le souligner aussi. Cela avait été précédemment souligné par Dieudonné Moutembe, justement, avec qui nous terminons les interventions de cette émission. Dieudonné Moutembe, pour vous, cette réaction de Ali Mouchaba.
Ali Mouchaba Joseph Cicéron depuis Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Nous regrettons amèrement la mort de nos journalistes, les chevaliers de la pub. Ces tueries en répétition constituent un signe éloquent attestant que la sécurité n'est pas bien assurée en Ituri et au Nord Kivu. Ainsi, nous demanderions mordicus au gouvernement congolais d'entreprendre des mesures tant palliatives que qualitatives afin de battre en brèche ces fléaux fulgurants sans précédent en adoptant notamment la majoration de militaires dans les contrées incultes. En outre, il faudra que les zones potentielles de criminalité soient surveillées de manière absolue, sans relâche, pour essayer de mettre en déroute la recrudescence récurrente et accrue de ces fléaux malsains jaillissant sur les couches sociales de la République démocratique du Congo.
Dieudonné Mutembezi.
Oui, monsieur le journaliste, je suis parfaitement d'accord avec votre auditeur. Mais je voulais peut-être ajouter, parce que j'ai suivi les décabres du ministre qui a manifesté les bonnes intentions de son ministère, mais je rappelle que dans les pays où nous trouvons aujourd'hui, on ne sait pas où nous trouvons dans quelle situation. Il a suivi la déclaration du ministre Pueda, que j'ai sali en passant il y a quelques jours, lorsqu'il était à l'Est. Il décrit la situation des violations des droits humains. Nous parlons aujourd'hui seulement des journalistes, mais il y a aussi des DDH. Donc, qui sont aussi tellement menacés, dont certains décès, on n'en parle pas à la radio. Alors, lorsque, par exemple, le ministre en fonction d'un gouvernement central explique ou présente la situation de son ministère, mais l'armée les contredit. Alors, on n'a pas nous maintenant qui sommes une population simple, où est-ce que nous allons encore nous fuir? Alors, nous disons toujours que ce sont les services de sécurité qui sont la plupart des responsables. Il n'y a pas que le dossier de Moussa Voul, j'informe le président de l'IMPC, son collègue aussi, le parfait Katoto de la radio toujours, Amoukeni Biakato, collègue directeur de notre radio sœur et à la radio de Joël. Il est aussi en train d'être menacé par les gens bien identifiés.
Alors,
les services de sécurité, aujourd'hui à Biakato,
Dieu donne vous t'aimez.
Il a reçu des visites.
Dieu donne vous t'aimez.
Mon collègue maintenant BDH, monsieur le journaliste, n'en parlons même pas. Notre coordonnateur, Siva Mwenda, il est 7 fois déjà visité la nuit par des militaires bien identifiés.
Dieu donne vous t'aimez.
Il avait dénoncé la présence des barrières.
Dieu donne vous t'aimez. Merci de partager toutes ces informations. Mais ce serait aussi bien de les transférer aux services compétents pour que, ne sait-on jamais, des gens puissent éviter justement des sanctions ou des représailles. Merci de transférer ces informations à qui de droit. Mais avec toute la panoplie des choses, des menaces, des conditions d'insécurité que vous dénoncez ici, et en plus de ce qui est déjà fait avec l'état des sièges, que peut-on, selon vous, faire en plus pour booster ces actions et atteindre les objectifs de la sécurisation des populations vivant en RDC?
Monsieur le journaliste, je pense que je peux paraphraser tous les intervenants. Ils ont parlé de l'autorité de l'État. Lorsqu'il n'y a pas autorité de l'État, l'impunité règne. Et l'impunité, c'est notre nourriture ici. Je peux vous balancer des violations, des violations, même des cas d'assassinats dans le ciel ouvert. Lorsque les militaires tirent sur les populations.
Dieu donne vous t'embêter, désolé, on n'a pas le temps. On aimerait bien vous écouter, mais on n'a pas tout le temps pour pouvoir le faire ici. Mais comme j'ai dit, transférer dans la mesure du possible les documents à qui de droit. Rapidement, en une phrase, la solution pourrait être quoi?
La solution, c'est établir l'autorité de l'État et mettre fin à l'impunité.
Merci.
Lorsqu'on va commencer à sanctionner les auteurs de violations, ça peut aider un modèle d'éducation ou pédagogique pour les autres.
Merci, Dieudonné Boutembezi, à Gabi Kouba, président de l'UNPC, comme à Tony Tambou, directeur de cabinet du ministre des Droits Humains, pour votre participation à cette émission. Polydor Basunga et Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madine Baxé, nous à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.